Donc le thème qui nous occupe ce soir dans notre émission à livre ouvert, c'est l'histoire du wahhabisme, sa doctrine et ses pratiques de 1700 à nos jours. Et nous recevons pour en parler notre invité Daoud Rifi. Et nous parlons d'un ouvrage en particulier qui s'appelle « Le pacte de Najd » de Hamadi Redissi, publié aux éditions du Seuil en 2007. Donc après une courte introduction, nous allons maintenant entrer un peu plus dans le vif du sujet. Et pour commencer, Daoud, comment y voir clair dans tous ces termes qui se terminent par « isme » ? Donc wahhabisme, salafisme, intégrisme, djihadisme, on n'en finit plus. Comment s'y retrouver et quelle est la place de ce terme qui nous intéresse ce soir, wahhabisme, dans tout cela ?
Alors, j'ai retenu le terme wahhabisme parce que c'est celui qui finalement est le plus neutre. Alors, effectivement, les tenants de ce mouvement aujourd'hui ont plutôt tendance à s'appeler les salafis, c'est comme ça qu'on parle souvent d'eux, y compris dans la presse, les salafistes ou les salafis, selon on l'arabise ou on le francise. Alors, le terme salaf pose problème, salafia, puisqu'en fait, il a une connotation, il a quelque chose de positif qui est derrière, et appeler ce mouvement le mouvement salafiste, c'est déjà lui donner un crédit qu'on va voir aujourd'hui, qui ne mérite pas en réalité.
Alors, qu'est-ce que ça signifie alors, salaf ?
Salafia, le terme salaf fait en fait référence à une époque, les trois premiers siècles de l'islam, donc c'est une époque qui est considérée comme, par tous les savants de l'islam, comme une époque bénie, puisqu'elle a été en partie mise en avant par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Et donc, on limite en général cette période aux trois premiers siècles après le début de la prophétie. Donc, le terme Salaf Salihin, les pieux anciens, parce que Salaf veut dire ancien, tout simplement, désigne ces trois premiers siècles où, grosso modo, les grandes références incontournables et incontestables de l'islam se retrouvent et fondent les premières étapes de ce qui vont être les sciences islamiques et l'orthodoxie islamique. Donc, c'est-à-dire l'orthodoxie, c'est-à-dire l'islam tel qu'il est considéré comme authentique par les musulmans eux-mêmes. Donc, quand les partisans du wahhabisme se disent salafis, c'est parce qu'ils considèrent que leur groupe est le seul qui soit conforme à l'enseignement de ces fameux salafs.
D'accord.
Alors le mot wahhabisme, pourquoi il est plus approprié ? D'abord parce que au départ, les wahhabis s'appelaient eux-mêmes comme ça. Donc déjà, on a au moins le mérite que c'est un terme qui conviendrait aux wahhabis comme aux non-wahhabis, aux opposants comme aux partisans. Le terme est employé par le premier ennemi Abdelwahab, donc le fondateur, par son propre frère, Souleyman, qui, on va le voir, est un des premiers à écrire des textes pour contredire son frère, donc Ibn Abdelwahab. Donc, juste pour situer le mouvement, Mohammed Ibn Abdelwahab est un homme qui vit en Arabie Saoudite actuelle. Il naît au début du XVIIIe siècle, en 1703, je crois. Il meurt en 1789. Et, en fait, il habite dans le Najd. C'est-à-dire, c'est une région, là on va situer, donc tout le monde voit la péninsule arabique, hein, l'Arabie Saoudite actuelle, avec le Yémen au sud, Oman en français, et le Koweït. Donc le Najd, ça se trouve à l'est, donc pour les nuls en géographie, c'est à droite, en Arabie. Et la région d'origine de Ibn Abdelwahab, c'est vraiment le milieu de l'Arabie, en plein désert. Donc, on appelle ça le wahhabisme, en référence à celui qui va être le fondateur, malgré tout, de ce mouvement. Et comme c'était un nom qui a été employé au départ par les wahhabis eux-mêmes, aujourd'hui encore, enfin encore il y a quelques années, une des grandes autorités de ce mouvement, un des grands savants de référence, Ibn Baz, reconnaissait lui-même, il s'appelait lui-même wahhabi en fait. Donc gardons ce terme qui a le mérite d'être attaché à son fondateur et d'être relativement neutre.
Et de mettre tout le monde d'accord.
Voilà.
Très bien, merci pour la clarification sur ces termes. Alors du coup, ce mouvement, comme il est, finalement on dit qu'il a usurpé le terme salafisme,
oui,
en prétendant être la référence de l'orthodoxie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, oui, d'après l'auteur, ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment on peut définir l'orthodoxie alors en islam ?
Alors, ça c'est le grand problème, parce qu'on verra que un grand écueil qui est fait par aussi bien les musulmans que les non-musulmans lorsqu'ils parlent de ce mouvement, c'est qu'ils le considèrent comme un mouvement, littéraliste ou extrémistes, c'est-à-dire qu'ils appliquent à la lettre. Et c'est faux, en fait. Le problème, c'est pas qu'ils appliquent à la lettre. Le problème, c'est qu'ils ont un rapport au texte qui, c'est-à-dire qu'ils ont une façon d'appréhender les textes qui ne correspond pas à la fonction, à la façon traditionnelle dont on on extrait les règles des textes. Alors, quels sont les deux grands textes en islam, les deux grandes sources plutôt en islam? C'est le Coran et la Sunna, bien sûr. Donc, le Coran, la parole de Dieu. Mm-hmm. La Sunna, c'est la tradition du prophète, ses paroles, ses actes.
Les hadiths.
Mm-hmm. Voilà, donc, qui sont constitués par des hadiths. Et donc, l'orthodoxie, c'est pas est-ce qu'on applique à la lettre ou pas. L'orthodoxie en islam, elle est définie par une expression arabe qui s'appelle « al-sunna wa jama'a », qu'on a traduit par le sunnisme en français. Donc on pourrait traduire littéralement par « les gens de la sunna », donc de la tradition, et du consensus, c'est-à-dire du fait que tout le monde soit d'accord. Et pour comprendre ce que comprend ce terme, il faut revenir à un hadith en fait, qui est un hadith qui est très connu, qui donne des explications sur les éléments essentiels de l'islam. C'est le fameux hadith qu'on appelle le hadith Jibril, dans lequel, alors c'est un hadith que les auditeurs peuvent retrouver par exemple dans le recueil de Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi, c'est un des premiers. Et donc, je vais pas lire le hadith, il est assez long, mais c'est un des plus connus. Donc c'est un hadith dans lequel les compagnons sont avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils voient un homme arriver qu'ils ne connaissent pas, un étranger, vêtu de blanc, donc propre sur lui alors qu'il vient de voyager, et qu'à l'époque, en voyage dans le désert, on revient rarement tout propre. Donc il est d'un blanc immaculé, il vient devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agenouille, et il l'interroge, il lui pose trois questions, quatre, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan, et enfin, quels sont les signes de l'heure. Donc, j'envoie les auditeurs sur ce long hadith. Les signes de l'heure, donc les signes de la fin des temps, ça je vais pas y venir, même si le mouvement wahhabite va être concerné par cette dernière partie. Mais on va retenir les trois premières questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? Donc, qu'est-ce que l'islam? Le prophète le définit en donnant les cinq piliers. Mm-hmm. La foi, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Qu'est-ce que iman? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la croyance? Il va donner les piliers de la croyance, que sont croire en Dieu, en ses prophètes, en ses gens, en ses anges, etc. Et qu'est-ce que l'ihsan? Alors, c'est le terme le plus complexe à traduire. On traduit par l'excellence. Perfection. Ou la sincérité, la perfection. Mmh. Et il répond, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc le hadith est assez long, et le voyageur s'en va. Alors, chose curieuse, à chaque fois que le prophète lui répond, le voyageur qui interroge lui dit « tu as dit vrai », donc il confirme les propos de celui qui est censé avoir la réponse. Alors les compagnons ne comprennent rien du tout à cette histoire, qu'est-ce que c'est que cet homme qui interroge et qui a déjà la réponse? Et le prophète leur répond « c'était l'ange Gabriel, Jibril, qui est venu enseigner votre religion ». Alors pourquoi ce hadith est intéressant? C'est parce qu'en fait, non seulement il nous explique les bases de notre religion, les cinq piliers, les piliers de la foi, mais surtout, enfin surtout dans notre cas ce soir, ils font les trois grandes branches de l'orthodoxie islamique, les trois grandes branches des sciences islamiques. Puisque l'islam, qui sont définis par les cinq piliers, vont donner les sciences, grosso modo, de la jurisprudence, le fiqh. Mmh. L'iman, la foi, va donner les sciences qui sont liées à la aqida, le credo. Et l'ihsan va donner les sciences qui sont liées à la spiritualité, à la perfection, qu'on appelle tasawuf et qu'on appelle soufisme en français. Ces trois branches, très rapidement, hein, je vais vraiment aller à toute vitesse, vont donner naissance, donc, enfin, ces trois sciences auront un vocabulaire précis, des savants précis, une façon d'extraire les règles précises, ils vont fonder des écoles précises, qui vont permettre aux musulmans du 4e siècle, du 5e siècle, du 10e siècle, du 20e siècle, après la mort du prophète, d'avoir une compréhension de l'islam qui soit la plus proche possible de ce qu'était l'islam des compagnons. Parce qu'il faut s'imaginer que les recueils de hadith, c'est quelque chose qui est entre guillemets un peu artificiel. On imagine qu'on vit avec un homme pendant toute une vie, on met sur un cahier tout ce qu'on a entendu de lui, tout ce qu'on a vu de lui, et puis cet homme meurt. Celui qui a lu le cahier, il connaît pas aussi bien celui qui est mort que celui qui a écrit le cahier. Mmh. C'est-à-dire c'est une série de textes qui sont froids, et il faut extraire des règles. Et donc, dans ces trois branches, fiqh, aqida, tasawuf, donc jurisprudence, croyance et spiritualité, on aura des savants de référence, des écoles de référence, un vocabulaire, des façons de procéder. Alors on va voir que le wahhabisme va malheur abattre ces trois domaines, complètement. D'accord. Et il va d'ailleurs être considéré comme une innovation, chose paradoxale aujourd'hui, parce qu'on sait qu'ils sont connus pour être les champions, pour taxer de bid'a, d'innovation les choses. Et la raison principale, on verra par la suite, la raison principale qui va faire qu'ils vont être condamnés, c'est que dans les trois domaines, le fiqh, la jurisprudence, la croyance, le aqida donc, et la spiritualité, ils vont casser tous les repères des ulema d'époque.
D'accord. Mais alors, pour être plus précis, est-ce qu'ils rejettent finalement les sources auxquelles puisent les différents savants que tu as évoquées, ou est-ce qu'ils consultent les mêmes sources en donnant une interprétation différente, disons ?
Alors en fait, le problème, c'est qu'il y a deux étapes dans le wahhabisme. Il y a une étape avant les années 50, donc l'étape qui concerne le fondateur jusqu'à les années 45-50, et puis il y a l'étape d'après. Avant les années 50, donc de Abdel Wahhab jusqu'à grosso modo la Seconde Guerre mondiale, le wahhabisme rejette tout simplement les textes anciens, puisqu'en fait, on va voir qu'ils sont en rupture avec la méthodologie de manière globale. Alors il faut juste que j'explique ce que c'est qu'une autorité des gens d'islam, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc on a vu qu'il y a trois branches de science, jurisprudence, théologie, spiritualité. Ces trois branches vont donner naissance à ce qu'on appelle des écoles. Donc les écoles de jurisprudence, ça va être les quatre grandes écoles juridiques de l'islam, Malikite, Shafirite, Hanbalite, Hanafite. La théologie va donner naissance à trois écoles théologiques, l'école Ash'arite, Maturidite et l'école Hanbalite. Donc Hanbalite, c'est une école de jurisprudence et une école de croyance. Et enfin, le Tassawouf va donner naissance à des écoles qu'on appelle les Turuq Soufia, des confréries, avec leur méthodologie. Alors, c'est pas des sectes tout ça. Ce sont des... on les appelle écoles parce qu'en fait, elles ont eu des fondateurs qui ont mis en place des méthodes d'extraction de règles. Parce qu'en fait, on est face à un corpus de textes considérable. On a des centaines de mille hadiths, on a des versets du Coran. Et les divergences, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait faire une émission entière sur les causes des divergences, mais les divergences sont multiples, elles sont liées à comment on appréhende les sources, est-ce qu'on considère toutes les sources de la même manière au niveau de l'authenticité, comment on comprend les termes qui sont employés, il y a des débats mais au niveau du vocabulaire. Et donc tout cela va donner naissance à des débats, et dans les premiers siècles de l'islam, va se constituer des écoles qui vont être la structure de Ahl al-Sunnah. Tous les savants, sans exception, on en comptait aller sur les deux mains avec des doigts en moins, mais tous les grands savants de l'islam appartiennent à une école juridique, une école du credo, et très souvent à une école spirituelle, une confrérie spirituelle.
Oui, et toutes ces écoles, c'est bien connu qu'elles ne s'opposent pas finalement.
Tout à fait, elles se complètent, puisqu'en fait c'est une simple question de méthodologie en fait, tout simplement.
Oui, et puis on les retrouve dans des zones géographiques différentes.
Tout à fait. Alors elles peuvent être
mélangées. Comme pour le Maghreb, par exemple, c'est très connu.
Tout à fait.
Pour être plutôt malikite. Là, on n'est pas du tout dans le cas qui nous concerne ici,
non,
dans le wahhabisme.
Alors, on va voir que.
C'est ce type de divergence, en tout cas.
Tout à fait. Et tu emploies le très bon terme, c'est que, au sein de ce cadre, des quatre écoles juridiques, des trois écoles de fiqh, de croyance, on a un flot de divergences qui sont toutes fondées, en fait. Si vous prenez un ouvrage de fiqh comparé, vous prenez du début de la prière jusqu'à la fin, c'est rempli de divergences, et on est incapable de dire qui a raison, puisqu'ils ont tous des preuves. Tout le monde a raison en fait, parce qu'ils ont tous une preuve fondée. Alors parfois il y a des groupes, sur certains points le malikisme va avoir plus entre guillemets raison que le hanbalisme, etc. Mais en gros, ils ont tous un fondement. Alors on va voir par la suite qu'Abdel Wahhab, tout ça, il le jette à la poubelle, il dit non, il y a un seul madhab, lui va retenir une variante du hanbalisme. Alors avant d'y venir, juste une dernière chose, la notion d'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'on a une autorité en islam? Et ça, c'est extrêmement important de le savoir, puisqu'en fait, non seulement il casse les repères au niveau des sources de la loi, puisqu'ils refusent les écoles, mais ils vont casser également les repères au niveau de l'autorité. Une autorité en islam, c'est simple, c'est quelqu'un qui a reçu une autorisation pour enseigner auprès d'un maître, suite à l'étude d'ouvrage. Alors c'est pas comme nous, on va faire des études de médecine et on va devenir médecin. Chaque maître a une série de livres qu'il enseigne, et l'élève est habilité à enseigner le livre qu'il a étudié
auprès de ce maître.
Voilà, pas toute la science, pas tout le fiqh par exemple, mais tel livre. Alors certains ulama vont étudier tous les livres disponibles, d'autres moins.
C'est ce qu'on appelle donc les ijazat.
Voilà, les licences, on peut traduire en français. Alors, il y a deux piliers de la connaissance en islam et de l'autorité. Premier pilier, c'est l'ijaza, donc l'autorisation, la licence qui suite à une étude permet d'être soi-même savant. Et la deuxième notion qui est liée, c'est la notion de isnad, de chaîne de transmission. Alors on connaît ce terme dans le hadith, puisque la chaîne de transmission, c'est tous les hommes qui ont rapporté un hadith, mais c'est valable pour toutes les sciences. En grammaire arabe, un grammairien, il a une chaîne de transmission qui le relie au fondateur de la science, ou du moins à l'auteur du livre. Dans le fiqh, dans le hadith, dans les sciences du fiqh, du hadith, dans la aqidah, donc dans le credo, il y a ça. C'est-à-dire que chaque savant a un isnad qui le relie au minimum au savant de référence, voire au prophète. Je vais donner un exemple concret. La traduction de Mohammed Hamidullah du Coran en français, en introduction, il donne son ijaza et l'isnad complet qui le relie de lui jusqu'au prophète de l'islam par l'intermédiaire de savants. Cela, les Wahhabis vont le couper en
balayer.
Ils vont balayer, ils n'auront pas d'Isned et pas d'Ijaza. Et ça, on va voir que ça fait partie des grands éléments qui vont faire qu'ils vont être condamnés.
Oui, c'est incroyable.
Parce qu'ils ne sont pas autorisés, en fait.
En tout cas, pour ceux qui ont étudié la science du hadith, savent que sans Isned, il n'y a absolument rien.
Ben, c'est un fameux salaf qui disait que sans l'Isned, tout le monde pourrait dire ce qu'il voudrait. C'est Ibn al-Mubarak qui dit ça. Ça serait la porte ouverte à tout.
Bien. En effet, alors, ce mouvement, il est quand même déjà vieux depuis 300 ans. Alors, si on essayait d'en dresser au moins les grands traits, comment on pourrait, depuis ses origines, début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des grands jalons qui peuvent permettre de comprendre l'histoire de ce mouvement ?
Alors, oui. Alors, pour le comprendre, il faut d'abord comprendre les bases de la pensée de son fondateur, Ibn Abd al-Wahhab. Donc Ibn Abd al-Wahhab, c'est un arabe du Najd, donc on a dit, donc une région d'Arabie saoudite actuelle. Et en fait, il est élevé dans une famille dont le père est un cheikh, en fait, est un savant, on peut dire, du madhhab, donc de l'école hanbalite. Et donc il va évoluer, lui, au départ, au sein de cette école. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même comprendre que dans cette école juridique, il y a eu un premier pas qui a été fait au Moyen-Âge déjà, par un savant qui est très connu, qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Et on va voir que Ibn Abd al-Wahhab va pratiquer un islam qui est un dérivé très simplifié de certaines choses qui ont été condamnées chez Ibn Taymiyyah, justement. Alors Ibn Taymiyyah, c'est un savant très connu, un grand savant de Damas. Et donc il va écrire des recueils de fatwa. C'est lui-même un fils de grand savant et petit-fils de savant. Et en tout cas, Ibn Taymiyyah, à l'époque, il va connaître beaucoup d'années de prison parce qu'il va avoir des positions dans deux domaines qui vont attirer la colère des ulémas de son époque. C'est dans le domaine du fiqh, d'abord. Alors, c'est des détails juridiques dont je ne vais pas rentrer. Hein. Donc, il avait des positions sur certaines choses, notamment sur l'héritage, etc., qui ont été très condamnées par les savants. Mais surtout, là où il était le plus condamné, c'est dans les questions de credo. Mmh. Donc, on a vu tout à l'heure que la théologie, donc l'étude, le discours sur Dieu, on pourrait dire, en islam, a trois écoles. L'école de Ash'ari, donc l'acharisme, qui est dominant dans le monde musulman aujourd'hui, archi-dominant. Et à Maturidi, donc c'est une école qui est dominante dans le partie indienne du monde, l'Asie. Et puis il y a une école beaucoup plus restreinte, qui c'est l'école Hanbalite. Alors, ces trois écoles, elles ont pour but d'expliquer les termes, en fait, quand Dieu parle de lui dans le Coran, comment on doit comprendre. Donc c'est les noms divins, les attributs, voilà, attributs divins. Et puis également les questions qui posent problème. Par exemple, lorsque Dieu parle de ses deux mains, comment comprendre les deux mains de Dieu, etc., etc. Alors, grosso modo, la position des deux écoles majoritaires, c'est une interprétation. Par exemple, la main de Dieu symbolise son pouvoir. L'école Hanbalite, elle se caractérise par le refus d'interpréter. Il accepte le texte tel qu'il est, et il s'arrête là. C'était d'ailleurs la position majoritaire chez les salafs. Alors, Ibn Taymiyyah va commencer à faire quelque chose qui va être condamné, en fait. C'est qu'il va glisser, faire un début d'anthropomorphisme. Alors c'est le voyageur Ibn Battuta qui est très connu, le voyageur marocain qui va voyager dans le monde entier,
qui va écrire
ses voyages, hein, qui sont d'ailleurs traduits en français aux éditions de la Découverte. Il raconte une scène à laquelle il assiste lors d'un discours de Ibn Taymiyyah à Damas, et il raconte Ibn Battuta que Ibn Taymiyyah dit, pour comprendre lorsque le prophète dit que Dieu descend au premier ciel, Ibn Battuta raconte, donc c'est lui qui raconte, hein, qu'il voit Ibn Taymiyyah se lever de la marge de son minbar, donc de l'escabeau sur lequel il est monté, de descendre de deux marches et dire c'est comme ça. Alors, pour le coup, ça c'est de l'anthropomorphisme pur.
Primaire.
Hein. Ouais, primaire en fait. Il a été condamné pour ce genre de choses. Alors ça n'a. On va pas s'arrêter là pour Ibn Taymiyyah, bien sûr. Mais il va finir en prison, il va mourir en prison. Ibn Hajar al-Asqalani, le grand spécialiste du hadith, qui est reconnu même par les Wahhabis d'ailleurs, explique qu'il a lu un texte écrit de la main d'Ibn Taymiyyah dans lequel il rejetait ses propos et dans lequel il faisait profession de foi à Sha'alit avant de mourir. Ça, c'est Ibn Hajar qui le dit. Mais donc, en tout cas, revenant à Ibn Abd al-Wahhab, lui grandit dans ce milieu-là. Il va donc être éduqué d'abord par son père, puis il part, comme beaucoup à l'époque, il voyage un petit peu autour de son région natale, il va à la Mecque, à Médine, et puis il monte un peu au sud de l'Irak, à Bassora. Il va rencontrer des savants, il va étudier un petit peu, très peu, mais avec très très peu de savants, et il va être initié en fait à la pensée d'Ibn Taymiyyah par un savant d'Irak. Et ça va être le début pour lui d'une véritable folie en fait, parce qu'en fait il va commencer à vouloir appliquer de manière radicale et même quelque part parfois absurde, ce qu'il a compris, et je dis bien ce qu'il a compris d'Ibn Taymiyyah, parce qu'Ibn Taymiyyah était infiniment plus subtil que ce que lui va faire. Et donc, grosso modo, il va faire quoi? Il va commencer par, déjà en Irak, à faire parler de lui, à haranguer la foule, à s'en prendre aux gens, et il va être chassé de là-bas. Donc il va repartir assez rapidement donc dans le Najd en Arabie, et il va commencer donc à faire la prédication, à appeler les gens à ce qu'ils considèrent être comme le vrai tawhid. Parce que là, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que c'est pas des questions de débat intellectuel, voilà, entre savants. C'est que lorsque vous considérez que Dieu a une main au sens propre, que Dieu a une jambe, lorsque vous avez des propos de ce genre-là, lorsque vous considérez que interpréter les versets du Coran est haram, vous pouvez passer une étape supplémentaire qui va être l'étape d'Ibn Abd al-Wahhab en disant ceux qui disent le contraire de ce que je dis ne sont pas musulmans. Ils ne sont plus musulmans. Alors c'est le deuxième élément qui va intervenir, qui est extrêmement important pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui en Irak avec l'État islamique, c'est que Ibn Taymiyyah, parmi les choses qu'il a introduites et qui ont été condamnées à sa suite et que va complètement reprendre Abd al-Wahhab, c'est la division du tawahid en trois. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être un vrai monothéiste, pour être vraiment musulman et croire que Dieu est unique, il faut croire et mettre en pratique les trois composantes du tawahid. Donc tawahid, l'unicité divine. La première composante, c'est, alors il appelle ça tawahid rububiyya, tawahid uluhiyya et tawahid fil asma wa sifat. Donc c'est l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et l'unicité des attributs et
des
qualités divines. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est très problématique? C'est que pour Abd al-Wahhab, s'il vous manque un des trois, vous êtes mouchrik, vous êtes polythéiste. Et la règle à ce moment-là s'applique pour vous. Si vous n'êtes plus musulman, vous êtes polythéiste, j'ai le droit de vous tuer. Et c'est ce qui, ni plus ni moins, se fait aujourd'hui. Quand vous, encore une fois, si vous allez sur le compte Twitter de n'importe quel combattant français en Syrie, vous verrez que quand ils font des combats contre des militaires syriens, ils disent « Nous avons tué 10 mécréants », alors que ce sont des Syriens musulmans qui pratiquent, etc. Parce que pour eux, ce ne sont pas des croyants.
Et donc ils méritent la mort.
Et donc, Ibn Abd al-Wahhab, c'est ça qu'il va faire, en fait. C'est qu'il va commencer à faire la guerre, au sens propre du terme, contre tous ceux, et ils sont nombreux, parce qu'en fait, lui, il est minoritaire, tous ceux qui ne défendent pas ses positions théologiques, en disant non pas ce que vous dites est faux, je ne suis pas d'accord, mais en disant je suis le seul à détenir la vérité, et ce que vous dites, c'est du kufr, de la mécréance, et c'est même pire, c'est du shirk. Et d'ailleurs, il va aller encore plus loin que ça en disant que les Arabes de son époque sont arrivés à un degré de polythéisme pire que les Arabes dans l'islam.
Oui.
Donc, il va très très loin.
Avant d'aller plus loin, pour comprendre, parce que finalement, si eux rejettent toute interprétation, que ce soit du Coran ou des hadiths, je veux dire, n'importe qui a étudié un tout petit peu le hadith, sait que le professeur Hassim lui-même a interprété des versets du Coran. Il y a probablement des milliers de hadiths là-dessus. Et puis aussi beaucoup de compagnons, dont le plus connu certainement est Ibn Abbas.
Oui.
Alors, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle ils ont voulu rejeter totalement l'isnad et les hadiths? C'est pour justement s'affranchir d'avoir à reconnaître que l'interprétation est possible?
En fait, au départ, c'est même pas ça. C'est surtout qu'ils n'avaient aucun isnad tout court. Parce qu'Abd al-Wahhab, il n'a pas étudié, il n'a pas reçu d'ijazah, il n'a pas eu d'autorisation. En fait, c'est un fondateur d'un mouvement qui va prendre beaucoup d'audience. Alors là encore, c'est un point commun avec l'actualité. Il va être très condamné par les savants. Et il va être très suivi par les bédouins. Mmh. Et en fait, c'est son charisme, c'est sa présence personnelle, le fait qu'il s'adresse à des populations, ça on le sait aujourd'hui, c'est absolument certain, qui étaient très peu cultivés. Mmh. C'était vraiment des bédouins. D'ailleurs, les
ça
fondateurs...
Ça n'a pas changé, ça, alors.
Comment ?
Ça n'a pas changé.
Ça n'a vraiment pas changé, en fait. Hein. Mais vraiment, on voit que les ulama vont faire fatwa sur fatwa, livre sur livre pour condamner ça, mais c'est les bédouins qui vont le suivre. Et donc, eux ne se posent pas la question de qui... de où vient cette science. Donc, ce n'est que bien plus tard, c'est, je vous le dis, après la Seconde Guerre mondiale, que la question va se poser de d'où on peut tirer notre légitimité. Et on va voir qu'il y a des savants, enfin on peut le dire dès maintenant en fait, il y a un savant contemporain qui est encore vivant je crois, le cher Bassam, un savant saoudien, qui va tenter de construire une généalogie, une tradition qui relie Abd al-Wahhab au grand penseur de l'islam ancien, mais en fait il n'y a rien, il n'y avait pas de savant dans le Najd à l'époque, c'est vraiment... il n'avait pas de source. Donc en fait, le mouvement d'Ibn Abd al-Wahhab au départ, il se construit sur très peu de livres. Ce sont des résumés des livres d'Ibn Taymiyyah, quelques recueils de hadith, et c'est tout. Il n'y a vraiment rien, c'est extrêmement pauvre.
Moi j'ai deux petites questions, si je peux me permettre, question naïve, sûr, parce que j'apprends beaucoup de choses, ouais. Bah, juste pour le terme qui était sur l'ouvrage là, de l'islam sectaire, donc le terme secte, t'as exclusivement parlé de mouvement. Peut-être que le terme est peut-être bien choisi. Je ne sais pas si tu voulais distinguer deux sectes. Si on peut revenir sur cette terminologie, alors, d'une part, et je te poserai la question après parce qu'elle m'a échappé et je vais la retrouver.
Donc le terme secte, c'est, alors il a plusieurs occurrences en arabe. Il y a le terme connu, c'est firqa en fait. Alors il n'est pas forcément péjoratif en islam. Une secte, alors il y a le fameux hadith des 70 et quelques sectes qui va diviser l'islam. C'est un hadith qui déjà fait débat au niveau de l'authenticité. Et puis ensuite, il a fait l'objet de beaucoup de commentaires divers et variés. Donc le terme, c'est firqa, justement, de groupe. Il y a également taïfa qui est employé pour dire des groupes. Donc en fait, Ahmed Eridici, dans son livre, justement, il essaye de comprendre, il fait une analyse de c'est quoi une secte, en fait. Alors lui, il se base sur le fameux sociologue Max Weber, en fait. Et il se base aussi sur d'autres penseurs. Il apporte, lui, sa touche de musulman, parce que je pense que malgré tout, il est musulman. Et il montre bien que la secte, c'est ce qui brise la tradition. Donc on a une tradition qui est constituée, comme on vient de le dire, les sciences de la jurisprudence, les sciences du credo, les sciences spirituelles. Et la secte, c'est celle qui vient donner des éléments en dehors de ce cercle bien défini. Alors Ibn Taymiyyah, pour reprendre son exemple, lui, il est, pour dire qu'il est beaucoup plus subtil dans sa pensée, lui, il n'exclut pas de l'islam. Il fait des cercles concentriques. Il dit que le cœur, c'est le Coran, la Sunna et les Salafs. Autour, et il fait des cercles concentriques, plus vous êtes proche du centre, plus vous êtes proche de la vérité. Là, on peut dire que c'est une secte au sens où ils brisent, donc on l'a dit, la tradition au sens où ils ont des positions qui sont en dehors de la tradition. Ils rejettent la notion d'autorité, telle qu'elle apparaît. Et en plus, ils rejettent l'islam en tant que propre, en tant que tel, parce qu'en fait on va pas dire nous qu'ils sont pas des musulmans. Les wahhabis sont nos frères, sont des musulmans, mais eux ne le disent pas forcément cela en fait. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais
c'est mais justement en fait c'est parce que le terme français secte il a une autre connotation qui fait qu'on préfère
clarifier. Tout à fait, c'est pas secte au sens où avec un gourou qui vous fait faire un suicide collectif, c'est pas ça du tout, hein.
Là, on parle vraiment, c'est pour ça que secte au sens le choix du terme mouvement est peut-être plus approprié.
C'est une déviance au sens, mais lui il emploie le terme secte au sens propre du terme, c'est-à-dire c'est un groupe déviant d'un groupe majoritaire en fait.
Et ma deuxième question c'était relatif à donc Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, c'est ça, qui fait référence donc au savant peut-être décrié de son époque Ibn Taymiyyah, mais est-ce que il est certain qu'il ait effectivement fait référence totalement à la pensée d'Ibn Taymiyyah ou pas?
Ah oui, totalement, c'est-à-dire que lui il est vraiment, alors c'est ce qu'on appelle le néo-hanbalisme en fait. Donc Ibn Taymiyyah, il a créé une première rupture, il a créé une école en fait, on peut dire. Alors les savants d'aujourd'hui, les grands ulama disent que Ibn Taymiyyah n'est pas un auteur qu'on peut lire, parce qu'il faut être un savant pour le lire, parce qu'il y a du bon, il y a du très bon, et il y a du beaucoup moins bon en fait. Donc les savants en général déconseillent sa lecture, parce que c'est complexe. On l'a vu en plus, il serait revenu en arrière sur ses pensées. C'est comme Ibn Hajar qui le dit, c'est pas n'importe qui, on l'appelle Emil Mouminin fil Hadith. Et donc, mais très clairement, Ibn Abd al-Wahhab revendique la paternité d'Ibn Taymiyyah. Ça, c'est absolument clair. Il le dit, il a écrit des lettres, on a des lettres de lui, hein, aujourd'hui encore, qui sont éditées officiellement par l'Arabie Saoudite. Et donc, il appartient à ce qu'on appelle le néo-hanbalisme. Donc, c'est une forme appauvrie d'une partie de la pensée d'Ibn Taymiyyah. Donc, on voit, c'est un double appauvrissement du hanbalisme au niveau juridique. Donc, en fait, lui, il était hanbalite au niveau juridique. Et il rejetait, pratiquement, on peut le dire, les autres écoles juridiques. Donc, on a dit qu'il y en avait quatre, hein. Et au niveau de la aqida du croyant, il était hanbalite également, mais hanbalite au sens anthropomorphiste, on peut le dire. Alors, on va, aujourd'hui encore, il y a des savants à la télévision, dans les chaînes arabes, qui sont des savants wahhabites, qui ont des positions extrêmement graves, en fait, hein, qui sont de l'anthropomorphisme pur. Je rappelle quand même.
Définir anthropomorphisme parce que c'est
le. Voilà, c'est le fait de donner à Dieu des qualificatifs qui sont pour l'homme. Mm-hmm. De dire que Dieu a une main, une vraie main en tant que telle, un visage comme nous. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. En islam, Dieu n'est pas un vieillard avec une longue barbe sur un trône. Mm-hmm. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, en fait. Et donc, l'anthropomorphisme a existé depuis très longtemps en islam, mais là il est devenu vraiment une école. Et ça les gens ne le savent pas, hein, parce que il faut venir au texte ou aux savants actuels, mais c'est vraiment lamentable, hein. Dire que Dieu a une main en tant que telle et une jambe, c'est inadmissible aujourd'hui, on peut pas dire ça en fait.
Et alors, si on poursuit alors dans la compréhension historique de cette secte, on a aussi entendu parler plusieurs fois de liens avec les États-Unis, avec l'Occident en général. Est-ce qu'il y a des preuves historiques là-dessus ?
Ah oui, alors là c'est absolument fondé. Alors c'est beaucoup plus tard. On va y revenir peut-être après parce qu'il faudrait commencer par faire une chronologie, expliquer un peu ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc en fait, il y a grosso modo 6 étapes que nous décrit Ahmadi Redici dans le livre. Alors je vais vraiment résumé le plus possible parce que c'est très très riche, il donne beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup d'événements. Donc ces 6 étapes, c'est première étape, c'est l'émergence. Donc Abdel Wahhab commence sa prédication, commence ses attaques, il va mener des guerres qu'il appelle des djihad. Donc il va attaquer les populations musulmanes. Oui, musulmanes, donc il va aller jusque la Mecque, hein, ils vont mettre à sac la Mecque quand même, hein. Ils vont donc on peut résumer ces actes en plusieurs étapes, enfin plusieurs comportement qu'on retrouve dans l'État islamique. Premièrement, donc, mener une guerre, ce qu'ils appellent un djihad, donc, c'est-à-dire attaquer les villages. Donc, ils tuent.
Donc, ça, c'était à la Mecque, tout ça.
Alors, c'était d'abord dans la région proche, qui sont environ à 800 km de la Mecque, hein, la région d'Aléry, hein, ça s'appelle son village. Donc, attaquer, faire des radias, comme on dit. Donc, ils attaquent des villages, des villes. Ils détruisent tout ce qui est vestige historique, notamment les tombes, puisque ils considèrent que c'est du shirk, de l'associationnisme, que de construire des tombes et de s'y rendre. Mmh. On pourrait y revenir après, parce que c'est un point très important. Donc, destruction des vestiges islamiques. Ils tuent les populations. Ils rendent esclaves les femmes des gens qui sont morts. Et ils pillent. Enfin, essentiellement, c'est ça. Une fois que le territoire est conquis, Ibn Abd al-Wahhab nomme un gouverneur, nomme un imam, et qui prend la gestion. Alors, ce qui est important, ça c'est la première étape, ce qui est important de comprendre, c'est que le wahhabisme se fonde dès le départ sur un pacte, c'est le fameux titre, le pacte de Najd. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce pacte ? C'est l'alliance entre Ibn Abd al-Wahhab, qui est donc, on va dire, le savant, le théologien, et celui qui va être le père fondateur de la dynastie qui règne aujourd'hui en Arabie Saoudite, Ibn Saoud. Donc l'Arabie Saoudite, ça vient du Saoud, qui est le nom de la famille royale.
La tribu.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Ibn Abd al-Wahhab donc est, on l'a vu, contraint de fuir les différentes villes où il fait sa prédication, et il retourne dans sa région d'origine, Deleria, donc c'est un donc dans le Najd. Et des membres de la famille Saoud vont commencer à le suivre, à devenir ses disciples. Et ils vont en parler au prince de la famille, le prince qui va devenir le roi, en fait, le premier roi de ce royaume. Et ils rentrent en relation et ils font un pacte. Le pacte, c'est quoi ? C'est que Ibn Saoud, on va le dire en version française, s'occupe des affaires politiques et militaires, et Ibn Abd al-Wahhab s'occupe des parties théologiques. Donc, il fait des fatwas, il émet des jugements, etc.
Et cette famille des Saoud, ils étaient déjà au pouvoir à ce moment-là ?
Non, alors en fait, le Najd est... alors, on peut dire que... Donc, on voit l'Arabie, le Hijaz, donc la région qui comprend la Mecque et Médine, c'est à l'ouest, donc à gauche, pour les nuls en géographie. donc, c'est la bande côtière à l'ouest de l'Arabie. Le Najd, donc, c'est toute la partie centrale à l'est. Et donc, le Najd est contrôlé par quelques grandes familles. Le Hijaz est contrôlé par les familles chérifiennes et les hachimites. Et donc, le Najd est contrôlé par des gouverneurs, en fait.
D'accord.
Et Ibn Saoud, lui, n'est personne à l'époque, si ce n'est une grande famille
de tribu.
Ouais, une grande tribu. Et ils vont commencer à faire des attaques ensemble. ils vont attaquer, donc faire le djihad, qui s'appelle le djihad. Alors, avant qu'il contracte ce pacte, Ibn Abd al-Wahhab, il avait déjà commencé donc à mener des combats et des guerres. Il avait attaqué avec 600 personnes la tombe du frère de Omar ibn Khattab, en fait. Zayd, le demi-frère, pardon, de Omar ibn Khattab, ils vont la détruire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont avoir très peur, en se disant, quand même, c'est le demi-frère du calife Omar.
Parmi les gens qui les suivaient, disons.
Alors voilà, les gens qui étaient là, ils ont un peu peur quand même, parce qu'ils se sont dit, c'est quand même une profanation d'une tombe, d'un compagnon du prophète. Et donc, il avait fait cet acte-là, premièrement. Et deuxièmement, il avait lapidé une femme lui-même. Ce qui est totalement interdit en islam, puisque c'est bien sûr l'État islamique qui doit faire appliquer les peines légales. Et donc, une femme qui avait reconnu l'adultère, il l'a faite lapider. Alors, faut s'imaginer que c'est un petit peu comme vous et moi, on lapide quelqu'un parce qu'on a décidé qu'il fallait lapider. C'est extrêmement grave. Donc, retour donc à nos deux, Abd al-Wahhab et Ibn Saud.
Leur pacte, donc.
Donc, leur pacte. Et donc ils commencent une série de guerres. Et ils vont pouvoir profiter du fait qu'il y a un affaiblissement du pouvoir central qui fait qu'en fait personne, ils vont pas rencontrer une grande opposition militaire. Ils vont rencontrer une grande opposition des savants, des politiques, mais ils manquent d'armées. Et la grande force de Ibn Saud, c'est qu'il va réussir à lever des armées bédouines et va conquérir donc des villes. Alors
là, on est à l'époque de l'Empire Ottoman, pour se fixer un peu les idées.
Voilà, tout à fait. L'Empire Ottoman, donc l'Empire de ce qui est de l'actuelle Turquie, qui ne va jamais réussir à contrôler complètement la partie de Nejd, qui sera justement en bordure du Hejaz. Alors, le premier royaume des Séouds, il se fonde en 1745. De 17 ans, alors on va schématiser, il y a trois royaumes qui vont se fonder. Le premier, 1745 jusqu'à 1818. Alors, Ibn Abd al-Wahhab, pour qu'on se repère, il meurt en 1798, je crois. Donc, ça, c'est le premier royaume qui va être détruit. Il va être battu par les armées du Khedive, donc du gouverneur d'Égypte, Mohamed Ali. Donc, premier repli. En 1824, second royaume qui va être mené, lui, par les cousins des Séouds, les Turquis. Le royaume est à nouveau détruit par les Ottomans, cette fois-ci directement, en 1890. Puis, de nouveau, troisième royaume, qui est encore aujourd'hui le royaume actuel donc, en 1932. Alors, ça veut dire que c'est plus d'un siècle de combats pour conquérir
l'Arabie,
en fait. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est plusieurs siècles de combats et plusieurs siècles de pillages. Alors, comme on a parlé en début d'émission de ce fameux État islamique, il est bon quand même de revenir à quelques histoires, des faits historiques. Bon, déjà, la prise de la Mecque. Alors, premier événement grave, c'est la prise de Karbala. Alors, ils vont attaquer Karbala et ils vont tuer entre 2000 et 5000 personnes. Alors, c'est les sources wahhabites qui le disent eux-mêmes. Donc, il y a des chroniqueurs, juste après la mort d'Ibn Abd al-Wahhab, un disciple d'Abd al-Wahhab, Ibn Rannam, qui va écrire un livre. Ils sont plusieurs à écrire des livres qui sont publiés, d'ailleurs, officiellement par l'Arabie Saoudite. Donc, Ibn Rannam dit 2000 morts. D'autres auteurs, y compris Wahhabi, disent 5000 morts, en fait.
À Karbala,
en fait. Donc, ils vont saccager le tombeau de Hussein, ils vont tuer des gens, on dit même qu'ils ont éventré des femmes enceintes. C'est vraiment ignoble, en fait. Les gens sont rendus en esclavage. Alors, encore une fois, pour ces gens, pour les Wahhabites, ce sont des mécréants.
Oui, ils sont pas des musulmans.
Surtout, beaucoup sont chiites. Donc, pour eux, les chiites étaient pas des musulmans du tout, en fait. Donc, ils détruisent Karbala et ils pillent le tombeau. Parce que très souvent dans les tombes des soit du prophète, soit des grands hommes de l'histoire, il y avait des dons qui étaient faits. Et donc il y avait des pierres précieuses, il y avait de l'argent, etc. Et donc ils vont tout prendre, en fait.
D'accord.
Le résultat, c'est que le roi Ibn Saud sera assassiné 2 ans plus tard par un kurde. Alors on n'est pas sûr que ce soit un chiite du tout. Mais par contre, la vengeance de son fils, ça va être impitoyable, parce qu'il va attaquer Bassora, et il va faire la même chose qu'à Karbala. Il va tuer les gens, il va tout détruire.
Ouais, par milliers.
Donc,
carnage.
C'est vraiment le carnage, en fait. C'est vraiment un carnage. Deuxième.
Donc là, ça veut dire que la dynastie des Séouds qui a démarré donc dans le troisième royaume depuis 1932. Oui. Donc c'est une dynastie héréditaire. Donc
tout à fait.
C'est de père en fils depuis
sur. Tout à fait. Alors en fait, elle est héréditaire avec une rupture, dans le sens où au 19e siècle, entre 1824 et 1932, c'est pas des Séouds qui règnent, c'est soit leurs cousins. soit les l'Empire ottoman quand ils reprennent le pouvoir. Mais en tout cas, les actuels chefs, enfin princes et rois d'Arabie Saoudite sont des descendants directs. Et de même que les fameux savants qu'on appelle El Sheikh, donc les savants El Sheikh, ils sont appelés comme ça, c'est un surnom, ce sont les descendants d'Ibn Abd al-Wahhab en fait. Donc l'actuel grand mufti d'Égypte, c'est un descendant d'Ibn Abd al-Wahhab.
D'accord.
On l'appelle El Sheikh parce que le nom de famille de Ibn Abd al-Wahhab est transformé en El Sheikh, le Sheikh. Donc passons rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 9h, sur la prise de la Mecque quand même qui est importante et de Médine. Alors là, ça va être terrible en fait, la prise de la Mecque, il y a 56 attaques menées contre la Mecque, qui, je rappelle, est quand même dirigé par un pouvoir musulman à l'époque. C'est-à-dire que c'est une guerre en islam, dans la jurisprudence islamique, le fait de s'en prendre à un pouvoir en place, c'est passible de la peine de mort. D'ailleurs, c'est ce que disent eux-mêmes les Wahhabites aujourd'hui. Et donc, en tout cas, ils attaquent 56 guerres contre la Mecque, et ils finissent par la prendre. Donc ça, c'est en 1744, et en 1745, ils prennent Médine. Et alors là, ça va être le carnage. Au sens où des hommes vont être tués, des hommes, des femmes vont être tués, ils vont tout casser. Donc les maisons de Khadija, l'épouse du prophète, les tombes des compagnons, Hamza, l'oncle du prophète, ils vont détruire une partie de Al-Ma'alla, donc le fameux cimetière de la Mecque.
Donc là, on est à quelle époque?
On est dans les années 1745. Ils commencent déjà à casser. Et puis, ils vont piller le trésor de la tombe du prophète. Et ça, ça va vraiment choquer beaucoup de gens. Les chroniqueurs disent qu'il a fallu 60 chameaux pour transporter le trésor qu'ils ont volé. Et ils vont donc Ibn Saoud rentre dans la chambre du prophète. Alors on ne sait pas s'il y a un rideau à l'époque, il y avait un rideau qui séparait la chambre de sa tombe. On ne sait pas s'il a passé le rideau ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a volé ce qu'il y avait dans la chambre du prophète. Donc il y avait on rapporte qu'il y avait le sceptre ou la couronne, je ne sais plus, de Khosroès, le fameux
Perse.
Perse, mais je cherche le titre qu'il avait, on va dire le roi perse, de l'époque du prophète.
L'empereur, je sais pas.
Voilà, beaucoup de vestiges précieux des anciens hommes politiques musulmans, des bijoux. Et ils vont même jusqu'à aller monter sur la coupole, parce qu'ils voient des dorures, ils pensent que c'est de l'or, et ils veulent l'arracher. Et il y en a un qui tombe et qui meurt, et ils le prennent comme un signe qu'il faut s'arrêter. Comme quoi, ils voyaient quand même des signes quelque part.
Donc là, ça va au-delà de vouloir détruire des tombes sous prétexte d'associationnisme.
C'est
là,
du pillage, ni plus ni moins.
Pur et simple.
Alors, bien sûr, ils vont vouloir revendiquer la notion de guerre avec radia, avec butin. Et donc, Ibn Saoud va partager le butin. Et alors, je tiens à préciser que ce que je dis, que raconte Ahmadi Redissi en détail, ce ne sont pas des sources occidentales, hein, ce sont des sources arabes, notamment. Le grand historien de l'Égypte, qui était wahhabite d'ailleurs, qui était un partisan de cette doctrine, c'est Jabarti en fait, qui est le plus grand historien de l'Égypte, raconte lui-même un entretien entre Ibn Saoud, fait prisonnier par le khédif Mohamed Ali, et il raconte qu'il vient avec un coffre que son père donc a trouvé dans la chambre du prophète, donc il y a des émeraudes, des bijoux, etc., et il dit qu'ils ont tout pris. Donc ça, bien entendu, on verra après dans la partie réfutation, les savants vont être extrêmement choqués, parce que venir détruire les maisons, les tombes de compagnons qui sont... Personne n'a pensé à faire ça avant eux, donc il faudrait quand même se poser la question de est-ce qu'il y avait eu des savants avant nous pour interdire ça ou pas, vu que c'est resté.
Pendant 13 siècles, il n'y a jamais eu ça.
Il n'y a jamais eu ça, mais eux ils disent que c'était pas possible de l'avoir. Ils cassent tout, ils tuent, ils pillent. Donc on imagine c'était pris à l'époque comme la fin des temps pour eux, ni plus ni moins.
Mais c'est important de le préciser parce que tu l'as dit à l'instant, que le livre est très documenté, les lecteurs et les auditeurs pourront s'en rendre compte parce que j'ai sous la main l'ouvrage et il y a quand même plus de 10 pages de bibliographie.
Tout à fait, et encore, il le dit lui-même qu'il a réduit volontairement. Parce que comme c'est pas un texte universitaire, il a pas voulu surcharger le livre. Et puis il s'appuie notamment sur une thèse d'une historienne tunisienne qui a fait une thèse sur les lettres de réfutation sur Abd al-Wahhab. Alors, on va conclure rapidement sur le troisième royaume.
Avant de faire une pause,
Et ça va permettre de répondre à la question
très bien, on peut venir avant
sur les Américains. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'alliance avec les Occidentaux. C'est un groupe en Arabie. Alors... au plus fort de leur règne, ils vont régner sur pratiquement toute l'Arabie actuelle, le sud de l'Irak, donc l'Irak c'est au nord de l'Arabie, hein, le sud de l'Arabie, donc le Yémen actuel, Oman, le Koweït, c'est toute cette zone-là qui va être dirigée. Finalement, l'Empire ottoman décide de prendre les armes, alors qu'ils sont déjà malmenés par ailleurs, parce que les Anglais leur font la guerre ailleurs, mais ils prennent les armes, ils défont le deuxième royaume, et donc Ibn Saud, le roi, donc le petit-fils maintenant de qui a fondé le royaume, est tué, il est même tué,
massacré.
Il est même massacré par le pouvoir ottoman. Et je passe rapidement, troisième étape et dernière étape, c'est à partir de 1902, Abdelaziz Ibn Saud, qui vit en exil vu que sa famille a perdu la guerre, décide de reprendre à partir de 1902 le pouvoir de ses ancêtres, entre guillemets, et il attaque Riyad, l'actuelle capitale, avec 40 hommes seulement. Ils prennent le palais de Riyad, parmi les Masmak. C'est toujours aujourd'hui le centre, donc la capitale du pays, et c'est le début de la conquête, lui, ses fils, et il va avoir une idée de génie pour l'époque, entre guillemets, c'est qu'il va créer une armée. Le problème de l'époque, c'est que les armées sont menées par des bédouins qui viennent avec vous faire la guerre, on le voit très bien dans le film Laurence d'Arabie, ils viennent faire la guerre, ils prennent du butin, ils rentrent chez eux. Donc Ibn Saud décide de faire une chose qui va coûter très cher à l'Arabie Saoudite, c'est qu'il va créer une armée entièrement composée de bédouins. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on les...
Donc une armée professionnelle.
Une armée professionnelle. Mmh. On les endoctrine, on leur inculque un savoir religieux. Donc il y aura un imam pour 50 personnes. On les nourrit, on leur donne de l'argent, ils participent avec nous aux guerres, et on en fait des hommes de combat. Mmh. Donc c'est une caste de guerriers qui va être créée par Ibn Saud, et ils les appellent les Ikhwan, les frères. Et ces frères vont devenir incontrôlables parce qu'ils vont devenir plus wahhabites que Ibn Saud lui-même. Donc ils lancent le djihad, et ils partent à la conquête du Hijaz, de la Mecque et de Médine. C'est son fils Faisal qui va commencer ce combat en 1924. Ils vont attaquer Taif, ils vont piller la ville, ils vont massacrer toute une partie de la population. Et quand les habitants de la Mecque entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Surtout que ils savent qu'il
y avait des précédents.
On avait des précédents. Et donc ils rentrent dans la ville sans les Wahhabites rentrent dans la Mecque sans même avoir besoin de faire des combats. Et là, ils achèvent pratiquement le travail, ils cassent ce qui reste à casser. On sait que par exemple Baqi'a, le fameux Baqi'a, il va être rasé en 1932.
Le cimetière
de Baqi'a va être de Médine, pardon, va être rasé en 1932. Al-Ma'ala, il va être définitivement rasé aussi après. Et donc destruction systématique de tout ce qui est vestige, tombe, maison, tout ce qui appartient à l'histoire de l'islam, au nom de quoi? Au nom de... Ça peut être du shirk, de l'associationnisme. Les gens, en voyant la maison de Khadija, vont se mettre à adorer la maison.
À se prosterner.
À se prosterner.
Oui.
Et donc, ils vont systématiquement tout raser. Alors, dernière chose, entre 1926 et 1936, Ibn Saud va commencer à être pragmatique. Il va pas pouvoir être toujours dans l'extrémisme de la pensée d'Ibn Abd al-Wahhab, et il va vouloir stopper le djihad. Et là, les Ikhwan, donc la fameuse caste guerrière, ils vont dire non. Et ils vont mener de la guerre contre Ibn Saud. Et donc il va devoir, avec les ulémas vont mettre des fatwas, il va faire des concessions, et ils vont rentrer dans le rang, ces Ikhwan, et ils vont devenir un petit peu comme les anciens combattants en France, avec une rente, ils vont être payés chaque année, leurs descendants également, aujourd'hui encore. Les descendants des Ikhwan, donc les frères militaires
continuent à percevoir des pensions militaires.
Alors, on arrive à la dernière étape qui répond à la question que tu posais il y a quelques minutes.
Enfin.
Il faut y arriver.
C'est important.
Ça, l'histoire.
La fameuse alliance qui perdure aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Alors, elle arrive très tardivement. Elle arrive en 1945 seulement. Donc, 1945, le président américain, c'est Roosevelt. C'est le président qui va mener la guerre contre Hitler. Et Roosevelt a des spécialistes, des espions qui lui disent, voilà, le centre de gravité du monde se tourne vers l'Arabie. Le pétrole, ils le savent déjà. Les Arabes ne le savent pas encore, mais il y a le pétrole. Et donc, il faut absolument se faire bien voir par eux. Donc Roosevelt va partir et il va rencontrer le roi Ibn Saud de l'époque. Alors ça se passe en 1945 au bord d'un bateau, le Quincy. Et l'auteur Ahmadi Redici va parler du deuxième pacte, le pacte du Quincy. Alors, il y a une particularité, et ça a peut-être dû beaucoup jouer, c'est que Roosevelt comme Ibn Saud sont tous les deux en chaise roulante. Ils sont tous les deux paralysés en fait. Alors sauf que Ibn Saud n'a pas une chaise roulante, il a une chaise tout court. Et Roosevelt lui a une chaise roulante qu'il va offrir à Ibn Saud. Et là, Ahmadi Redici, dans le livre, il dit qu'ils étaient faits pour s'entendre. Ils sont tombés vraiment amis. Et ils ont conclu un pacte. Roosevelt s'est engagé en son nom à ne rien faire. Alors à l'époque 45, on est 3 ans à la création d'Israël.
Oui.
Donc Ibn Saoud ne parle que de ça avec Roosevelt. Il lui dit, on ne veut pas d'un État juif en Palestine. Roosevelt s'engage. En son nom, il dit, il n'y aura rien sans le consentement des Arabes. Il s'engage fermement et il y a une alliance qui veut que, grosso modo, les Américains protègent les Saoudiens et les Saoudiens alimentent en pétrole les Américains.
Comment c'est un pacte économique?
Alors c'est un pacte économique et de protection. D'ailleurs, Ahmadi Redici prend un, il dit c'est comme le pacte des Vimy en islam, où l'État islamique protège les minorités non musulmanes, sauf que là c'est le contraire.
Ça, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Alors Roosevelt va mourir 8 jours après. Donc la promesse ne sera pas tenue par rapport à la Palestine, mais c'est le début d'une longue, très longue amitié américano-saoudienne.
D'accord, très bien. Bon, alors...
Des couffards.
Au passage. Très bien. On va voir que ça va coûter très cher aux Saoudiens.
Très bien, bah, en tout cas c'est très riche. On va laisser nos auditeurs se reposer un petit peu. Alors je vais rappeler le titre de l'ouvrage dont on parle ce soir, Le pacte de Najd, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam, de Hamadi Redici, aux éditions du Seuil, paru en 2007. Alors aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission, et on sait qu'il y a souvent des problèmes techniques pour pouvoir l'écouter sur les ondes de la radio Pastel FM, et surtout sur le site internet. Alors, dorénavant, il y a un blog qui a été créé pour pouvoir archiver les différentes émissions. Donc c'est pas encore tout à fait au point, mais celle d'aujourd'hui était déjà annoncée. Alors vous pouvez vous connecter sur laprophétie.wordpress.com, donc laprophétie en un mot .wordpress.com, et donc c'est .com. Donc les émissions seront dorénavant disponibles sur ce site.
Ainsi que les références des ouvrages.
Ainsi que les références de ces ouvrages. Et on se retrouve dans quelques minutes après une courte pause. De retour sur les ondes de Pastel FM, il est 21h, passé de 18 minutes. Donc nous poursuivons notre émission sur l'histoire du wahhabisme, et en particulier l'évolution de sa doctrine et ses pratiques depuis les origines à nos jours, c'est-à-dire une histoire de plus de 300 ans, plus de 3 siècles. Donc on a avec notre invité Daoud Rifi, on a parcouru d'abord l'historique depuis la fondation de ce mouvement ou cette secte. On avait vu aussi comment ils étaient considérés d'emblée comme une hérésie, parce qu'ils s'écartaient totalement de l'orthodoxie islamique. Et la question qu'on se pose, elle a été déjà un petit peu évoquée juste avant la pause, c'est, mais finalement, s'ils n'ont pas eu d'opposition ou de résistance plutôt militaire lorsqu'ils ont pillé et attaqué les villes d'Arabie, on avait dit tout à l'heure que les savants, eux, par contre, se sont opposés à eux. Et alors, comment s'est passée cette opposition? Est-ce que les wahhabis avaient publié des textes qui ont été étudiés par les ulamas, ou est-ce que les ulamas se sont surtout prononcés sur leurs actes? Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, il y a eu les deux. C'est-à-dire que Ibn Abd al-Wahhab va un petit peu imiter la façon de faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va envoyer des lettres. Alors, ce qui a beaucoup choqué à l'époque, parce qu'en fait, il envoie des lettres comme si... Alors, il envoie des lettres à qui? Au chef d'État musulman, au roi, enfin, donc le sultan du Maroc de l'époque, aux différents gouverneurs des pays musulmans, en Tunisie, ailleurs, en Irak. Et dans ces lettres, il dit, en gros, vous n'êtes pas de vrais musulmans, vous ne suivez pas la doctrine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que justement, il suivait la charisme, donc le credo... l'école de théologique, je veux dire les oui. opposants, hein, oui. suivaient l'école théologique de Acharit. Et donc, Ibn Abd al-Wahhab leur envoie des lettres en disant, craignez Dieu, revenez à l'islam authentique, suivez-moi, et abandonnez l'idolâtrie. Alors, faut imaginer ce que ressent un savant de Fès, de Tunis ou du Caire lorsqu'il reçoit un courrier lui disant qu'il n'est pas musulman et qu'il doit faire son repentir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura toute une série de textes qui vont s'appeler Radda, donc des réfutations, qui vont être écrits par des musulmans. Alors, l'auteur Ahmadi Redici en parle dans le livre. Du Maroc jusque l'Inde, on aura des savants qui vont envoyer, on a retrouvé 200 à peu près, 200 lettres quand on dit des lettres, ce sont des textes, en fait, de réponses. Environ, en tout cas, plusieurs dizaines de textes dans lesquels ils répondent à Mohamed Abdel Wahhab. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que la plupart de ces textes ont le même titre. C'est réfutation de l'innovateur. L'innovateur, c'est Abdel Wahhab. Donc, Radda alal Mubtadi'a. Enfin, c'est l'innovateur ou l'égaré. Les réponses à l'égaré qui égare. C'est très souvent ce genre de titre qu'il y a dans ces lettres. Et donc, les ulama vont répertorier un certain nombre d'éléments auxquels ils vont répondre. Premier élément, alors là, ils sont unanimes pour le dire, la personne, Abdel Wahhab, ne connaît rien aux sciences islamiques. Ça y est,
c'est un ignorant.
C'est un ignorant. Et son propre frère, le propre frère d'Abdel Wahhab, donc Sulayman, on en a parlé, qui sera persécuté après, lui-même le dit dans un livre qui a été publié d'ailleurs en langue arabe, Les foudres divines contre le wahhabisme, c'est comme ça qu'il l'intitule, dans lequel il dit que les bases fondamentales de la science islamique sont pas présentes dans les ouvrages d'Abdel Wahhab. Donc premier élément, première condamnation, celui qui nous écrit ne connaît pas les bases de la religion. Deuxième élément, comme il ne connaît pas les bases de la religion, il ne comprend pas le credo islamique et il confond, alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais il confond des questions de juridiques avec des questions de credo. En gros, c'est quoi? C'est qu'Ibn Abd al-Wahhab, pour lui, quand vous faites tel acte, vous devenez mécréant. Alors que quand on fait tel acte pour les savants, on est pécheur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il fait ce qu'on appelle le takfir, l'excommunication, le fait de vous sortir de l'islam. Ça, c'est encore un élément qu'on a aujourd'hui. Les groupes takfiri, qu'on appelle takfiri, ils font un anathème, l'excommunication. Ils disent, vous n'êtes pas musulman. Par exemple, je donne un exemple aujourd'hui. Si vous votez dans un pays musulman comme non musulman, si vous participez aux élections, ou si vous considérez que les élections sont une chose normale, vous êtes kafir pour les groupes takfiri. Vous êtes mécréant. Et soit vous vous repentez, soit on vous tue. C'est leur discours, en fait.
Ouais, donc la grande différence, c'est pas le fait de reprocher un acte aux gens, c'est la conséquence de cet acte.
Voilà.
C'est que ça fait sortir de l'islam.
Tout le problème est là, en fait. Et c'est ce que vont relever tous les ulama, c'est qu'ils disent, Abdel Wahhab confond un péché, et encore, ils disent que ce n'est même pas un péché ce qu'ils condamnent, mais admettons que c'en soit un, c'est un péché au sens où on commet une faute, un peu comme je bois de l'alcool ou je ne fais pas ma prière. Quoique non, c'est pas le bon exemple, on va dire comme je bois de l'alcool ou je fais je ne sais quoi. Alors ça c'est un péché. Alors que le fait d'être mécréant, c'est l'enfer éternel. Et Abdel Wahhab,
c'est nier Dieu.
Et donc, pour Abdel Wahhab, lorsque vous rendez dans un endroit où sont faites telle et telle chose, vous devenez mécréant. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, ignorance de Abdel Wahhab et de ses fidèles. Confusion entre le juridique et la croyance. Troisième condamnation, le fameux triple tawhid, le fait de diviser en trois parts, il faudra avoir les trois parts pour être un vrai croyant, ça ils disent que c'est une bid'a. Et dernier élément qu'on peut retenir, le fait de rejeter la divergence dans la jurisprudence. Donc ça c'est les grands points qui m'ont relevé, et leur conclusion elle est claire, c'est un innovateur qui mérite la prison au minimum. Ils sont clairs et nets par rapport à ça.
Ils sont plus gentils que lui, en tout cas.
Oui,
mais certains consensus en plus.
Alors, il y avait vraiment un consensus, et c'était même devenu une insulte à l'époque, lorsque vous aviez certains propos, lorsque vous ne suiviez pas une école juridique, on vous traitait de wahhabite, à l'époque déjà. Donc ça, c'est la partie réfutation. Alors, je renvoie les lecteurs sur... Il y a plusieurs chapitres sur ce sujet-là. C'est passionnant, et c'est la grande force du livre, hein, c'est qu'il montre que c'était une secte à l'époque d'innovateurs. Ils faisaient des bid'a pour les savants de l'époque.
D'accord. Oui, bah donc si tu précises à l'époque, c'est que ça a changé depuis.
Tout à fait.
Alors, mais comment on peut expliquer ça? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des accointances entre les Américains, les Occidentaux. Il y a l'histoire du pétrole. Il y a le pacte de Quincy.
Oui.
Et est-ce que ça pourrait suffire à convertir les esprits, si on peut dire ça, parce qu'aujourd'hui le wahhabisme a gagné du terrain et pas seulement en Arabie.
Alors c'est le cœur du propos de Redici. Il pose la question, il dit en page 143, comment donc une secte belliqueuse, donc une secte guerrière, qui a tué, saccagé, profané et pillé les lieux sacrés, a-t-elle pu obtenir un certificat de bonne conduite, donné par ceux-là même qui l'ont combattu? C'est la question qu'il pose. Et alors là, c'est vraiment le tour de force de son livre, c'est qu'il fait une généalogie, il dresse la longue liste, mais comment on est passé de la secte à l'islam officiel en citant des cas d'intellectuels qui sourds n'ont rien à voir avec Ibn Abd al-Wahhab. Et donc, alors, pour faire bref, il commence en expliquant une chose forte, c'est que ça a été possible parce qu'en fait, la tradition était malmenée à l'époque. Faut se rendre compte que lorsque le wahhabisme est accepté dans le monde musulman, c'est le début du XXe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le Maghreb est colonisé, que la Palestine est sous mandat britannique, que l'Empire ottoman est dépecé. Donc il y a
un affaiblissement
de l'islam au sens politique. Premier élément. Deuxième élément, il y a un affaiblissement de l'islam au sens intellectuel. Les autorités religieuses ne sont plus reconnues. On a vu tout à l'heure en début d'émission qu'une autorité religieuse, c'est une personne qui a reçu un enseignement qui remonte au prophète par un isnad, par une chaîne de transmission. Ça disparaît. Et au alim, au savant, va succéder un nouveau type de personnage, le musaqqaf, le lettré, l'intellectuel. Et c'est ce musaqqaf qui va ouvrir la porte d'entrée de l'islam officiel. Alors, il cite plusieurs noms.
Alors, qu'est-ce que c'est ce musaqqaf?
Alors, le musaqqaf, c'est donc l'intellectuel qui n'est pas un savant au sens où il n'a pas étudié de manière traditionnelle. Il peut étudier en université, il a pu faire El Azhar éventuellement, mais c'est déjà les universités ont déjà été beaucoup transformées, elles ont été beaucoup réformées. Il n'y a pas un enseignement traditionnel comme on avait autour d'un maître assis qui transmettait un ouvrage.
Il y a une rupture avec la transmission de l'enseignement comme c'était fait jusque-là.
Alors là, on ne peut pas rentrer dans le détail ce soir, mais donc il y a une série de réformes qui sont faites à Al-Azhar qui vont par exemple faire entrer les sciences profanes, les mathématiques, d'autres choses, la médecine. Donc le type d'enseignement va être transformé. Et en fait, le lettré, le musaqqaf, il est une personne qui est un écrivain, qui va aimer la littérature. Ils vont souvent voyager en Europe, et ça va être déterminant pour eux. Ils vont partir à Londres et à Paris notamment. Donc ils sont plusieurs à faire cela. Et ce qui va les animer, et c'est ce qui va causer leur confusion avec le wahhabisme, c'est la tristesse de voir le monde arabe à terre.
D'accord.
Et donc ils vont oublier toute la partie, c'est ce que montre très bien Redici, toute la partie doctrinale d'Abd al-Wahhab, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, on va le mettre de côté. On va ne retenir qu'une chose, c'est qu'un homme a levé une armée et a brisé les fausses idoles, a mis de côté les faux savants, et on va construire toute une mythologie, parce que c'est une vraie mythologie, et l'histoire de cette chose-là est à faire encore aujourd'hui. C'est le fait de dire que les savants de l'époque étaient tous des mauvais savants, et que les hommes spirituels étaient tous des hypocrites qui aimaient l'argent. Tout ça, ce sont des mythes qu'ils ont construits.
Oui, tout à fait. C'est intéressant, parce que ce type d'argument, on les entend encore aujourd'hui.
Tout à fait.
De dire que les musulmans étaient colonisés parce qu'ils étaient colonisables, parce que c'est la faute des savants, parce que
Alors qu'en fait, c'est faux. On le sait qu'il y avait des immenses savants qui avaient une pensée bien plus profonde que ce dont on parle ce soir, du Maroc jusqu'à l'Inde. Je veux dire, il y avait vraiment des très grandes autorités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les mouvements indépendantistes dans les pays musulmans étaient tous liés au mouvement réformiste. Alors le mouvement réformiste, c'est un terme qui est très large, hein. Ça va des rationalistes purs à Hassan al-Banna. Et alors ils n'ont pas tous la même valeur, mais on va dire que le point commun entre le réformisme d'une part et le wahhabisme d'autre part, c'est que dans ces deux courants, il y a une volonté de passer outre l'héritage intellectuel des années précédentes. On a parlé d'une renaissance arabe, parce que à la renaissance en Europe, vous avez des intellectuels, des philosophes, qui vont dire le Moyen-Âge était un âge de ténèbres, on va revenir aux sources de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'Empire romain, l'héritage grec. Ils vont faire la même chose des mouvements réformistes et wahhabites, ils vont prétendre revenir à l'héritage des salafs, en engendrant
plusieurs siècles
de traditions qu'ils considèrent comme sclérosées. Alors, je peux pas rentrer dans le détail maintenant, parce que c'est trop complexe, je renvoie vraiment... De toute façon, c'est une mise en bouche, hein. On doit renvoyer les lecteurs au livre.
Voilà.
Mais ce qui est déterminant, c'est de comprendre que ça va être le début des savants ou des intellectuels autodidactes. Je vais prendre un cas très concret, sans mépris aucun, parce qu'il est très important aujourd'hui dans l'islam d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes en France et même dans les mouvements violents dans les pays arabes. C'est le cas de Al-Albani, le cheikh Al-Albani, qui est ce fameux savant dont on peut acheter des livres partout aujourd'hui en France pour 5 euros. C'est un cas de figure exemplaire de ce mouvement-là. C'est un homme qui n'a pas étudié du tout. Il n'a pas du tout été ni à l'université, ni dans des cercles avec des savants. C'est un homme qui était un horloger. et qui était pris de passion pour la science, notamment la science du hadith. Et il va passer des années dans la bibliothèque Al-Zahiriya de Damas à lire des livres. Et il va commencer à corriger les hadiths, à dire tel hadith est juste, tel hadith n'est pas juste. Donc il va s'initier tout seul par les livres à ce qu'on appelle Ilm al-Rijal, la science des hommes, qui est une science qui permet de déterminer la valeur d'un hadith. Et Ibn Abd al-Wahhab, le Cheikh Albani est un bon exemple de cet autodidacte qui va venir bouleverser les repères, qui fait qu'aujourd'hui on va mettre à la même place quelqu'un comme Albani qui n'a étudié avec personne, et quelqu'un comme le Cheikh Roumari par exemple, qui est le grand savant marocain, un des plus grands savants du XXe siècle, qui lui est barre de diplôme, qui a étudié avec tous les grands savants de son époque, qui a pris par cœur des dizaines et des dizaines de milliers de hadiths et des très grands nombres de livres. On va les mettre sur le même, la plupart des gens ne connaissent même pas Roumari d'ailleurs en France, on va les mettre sur le même plan, alors qu'on a d'un côté un intellectuel qui a appris tout seul, et de l'autre, un vrai savant, mais qui n'est pas écouté. Et tout le problème du XXe siècle, c'est que le Moussaqaf, l'intellectuel, va beaucoup écrire dans les journaux. Et on le sait, hein, toute personne qui connaît un peu les pays arabes sait que le journal a une grande place, le journal papier a une très grande place dans les pays arabes. Déjà à l'époque, la presse arrive, on a les premières imprimées qui arrivent en Égypte, et c'est par la presse, par les journaux arabes, que les idées du wahhabisme, on va complètement effacer cette histoire dont on a parlé ce soir, qui est dramatique. On va oublier les meurtres, on va oublier le saccage, on va oublier la rupture avec la tradition, pour ne retenir qu'une chose. Il est venu dans une époque où les Arabes étaient devenus des païens, et il a sauvé les Arabes. Alors, ce qui est terrible dans son livre qu'il raconte, c'est que même une figure comme Taha Hussein, un grand intellectuel égyptien qui était à la limite extrême d'être un non-musulman, même lui considère Mohammed Ibn Abd al-Wahhab comme un grand réformateur de l'islam. Et donc il montre très bien, donc je renvoie les auditeurs à cette histoire d'une réhabilitation. Il appelle ça l'hérésie réhabilitée, c'est le troisième partie de son livre, dans lequel il montre comment la secte est devenue l'islam officiel.
Incroyable, effectivement. Très bien, alors peut-être pour conclure, comme il ne reste plus beaucoup de temps, ce wahhabisme, alors comment il a évolué depuis, parce que là on a vu plusieurs étapes, le fait qu'au tout départ c'était une hérésie, puis les ulamas se sont soulevés contre Ibn Abd al-Wahhab avec les fameuses réponses à ses lettres, et qu'ensuite il a profité à la fois d'un affaiblissement, on a dit, du monde musulman, et aussi d'une mise en second plan des véritables savants, et que, profitant de ce contexte, il a été en quelque sorte réhabilité avec l'aide du réformisme et du nationalisme arabe. Et comment a évolué le wahhabisme jusqu'à aujourd'hui encore? Parce qu'aujourd'hui, le wahhabisme n'a pas disparu.
Du tout. Alors, il y a la rupture d'Albani, on peut le dire, c'est une véritable révolution. Parce qu'Albani, il va être encore plus puriste, entre guillemets, que Ibn Abd al-Wahhab. Alors, lui, il va rejeter complètement les quatre écoles. Il dit carrément que c'est une bida'a. D'ailleurs, il condamne Albani, condamne Ibn Abd al-Wahhab parce qu'il était resté hanbalite. Il va rejeter, mais alors, de manière radicale, tout ce qui s'est fait. Il va même corriger les fameux recueils de Bukhari Muslim en disant qu'il y a des hadiths dedans qui sont da'if. Ça, beaucoup de gens qui disent Albani ne savent pas. Il va fonder une nouvelle école, une école sans école. Alors, le Shir el-Bouti, il a écrit un livre dans lequel il lui répond, qui était traduit en français, qui s'appelle La non-conformité aux quatre écoles, la plus grande hérésie du XXe siècle, qui est un livre qui était traduit en français, qu'il faut absolument lire. Et donc, Albani, ça va être une grande rupture. Ça va être la grande rupture. Alors, au départ, il va être accepté en Arabie Saoudite. Il va enseigner là-bas, puis quand il va commencer à critiquer Ibn Abd al-Wahhab, il va être expulsé. Mais il va être le protégé d'une autre très, très grande figure actuelle, enfin, qui est mort depuis quelques années, c'est le Shir Ibn Baz, en fait. Donc, Albani Ibn Baz meurt tous les deux dans les années 90, je crois, hein, donc c'est vraiment des savants contemporains. Et donc, de Albani va naître un groupe, un sous-groupe du wahhabisme qui s'appelle Ahlul Hadith, les gens du Hadith, qui sont donc des gens qui vont rejeter complètement les écoles juridiques, mais alors complètement, et se concentrer uniquement sur les sciences du Hadith. Et de ce groupe va naître une multitude de sectes, mais on peut le dire vraiment de sectes, qui vont passer leur temps à se tirer dessus. Et par exemple, ce qui est frappant, c'est que l'État islamique considère que la famille
islamique actuelle,
l'État islamique, le Daesh, donc le Daesh, en Irak, hein, le I actuel, dit que les Saoudiens sont des mécréants, et les Saoudiens disent de l'État islamique qu'ils sont mécréants.
D'accord. Et ils ont peut-être tous les deux raison.
Alors, justement, je vais ouvrir une parenthèse qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se demander, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait une telle chose n'ait pas été annoncée par le prophète de l'islam lui-même. Et il y a un hadith qui est cité en partie, et uniquement en partie, et on va voir pourquoi il est cité qu'en partie, qui est cité par les deux camps, le Daesh d'une part et les Saoudiens d'autre part.
Justement pour se...
Pour se jeter l'anathème, dire qu'ils sont kuffar. C'est le fameux hadith qui parle des khawarij, de ceux qui sont sortis de l'islam. Et donc, le hadith, l'extrait qui est toujours cité, que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent, c'est donc le prophète qui annonce qu'à la fin des temps viendra un groupe de gens, il est qualifié d'ailleurs de jeunes gens, et il dit qu'ils réciteront beaucoup le Coran, mais le Coran ne descendra pas plus bas que leur gosier, leur gorge. Et ils quitteront l'islam, ça c'est le hadith qui est toujours cité, aussi plus vite que la flèche quitte son arc. Alors là, j'ai encore lu récemment, j'ai un ami, collègue, qui m'a ramené un dépliant qu'il a trouvé dans une mosquée pour dire que l'État islamique c'était des mécréants, donc. Et donc, la fatwa du shir saoudien cite cet extrait. Mais il en oublie une partie.
Volontairement, alors.
Je vais pas dire volontairement, je vais commencer à présupposer. Mais en tout cas, c'est curieux qu'on ne le cite pas du tout. Parce qu'en fait, le compagnon qui rapporte le hadith a providentiellement eu l'idée de décrire la personne dont parle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith précieux qu'on retrouve dans le livre de Taïb Chouiref, Les enseignements spirituels du prophète, le volume 2 aux éditions Tasnim, dans le chapitre sur la fin des temps. Alors, c'est donc un chapitre qui cite un certain nombre de hadiths du prophète sur la fin des temps. Alors je ne vais pas tout lire, mais je vais lire donc l'essentiel. Donc c'est un homme, le prophète a fait une guerre, il partage un butin, et un homme vient et dit au prophète, Ya Rasulallah, ittaqillah, ô prophète de Dieu, crains Dieu. Ce qui est assez,
dans la terre,
contradictoire. Voilà. Alors, bien entendu, le prophète, qui est quelqu'un de logique, lui dit, en tant que prophète, ne suis-je pas plus à même de craindre Dieu? Et il lui dit, tu partages de manière injuste, c'est pas bien.
Le butin.
Alors le prophète lui dit que non, pas du tout, et l'homme est en colère, il s'en va. Alors les compagnons qui sont outragés par ce comportement, un des compagnons propose au prophète de tuer l'homme sur place, et il refuse. Et il dit...
Le prophète refuse.
Et donc le hadith poursuit, là je cite le hadith qui est rapporté par le Bukhari quand même, hein, donc qui est absolument authentique. Le prophète regarda l'homme qui s'éloignait en lui tournant le dos et dit, donc le prophète dit, en vérité, de la descendance de cet homme apparaîtra un peuple qui psalmodiera le Coran, donc qui récitera continuellement, le livre de Dieu, mais sans que cette lecture descende plus bas que le gosier, ils s'éloigneront plus vite de l'islam que la flèche va à sa cible. Et le compagnon qui rapporte le hadith va extrêmement, enfin, c'est pas lui qui va loin, il dit, il me semble que le prophète conclut ainsi, si je les rencontre, je les ferai périr comme ont péri les Thamoud. Et dans un autre hadith, le prophète dit en parlant de ces hommes, certes il y a, alors, il dit, si vous veniez à les rencontrer, faites-les périr, certes il y a en cela une source de récompense le jour du jugement. Donc oui, c'est deux hadiths rapportés par le Bukhari qui parlent d'un groupe qu'on appelle Khawarij, ceux qui ont dévié du groupe. Et alors le shir, le grand mufti d'Égypte de Syrie, le grand mufti d'Arabie Saoudite actuel cite ce hadith en parlant du Daesh, donc du pseudo État islamique. L'État islamique cite ce hadith en parlant des Saouds, mais personne ne cite l'homme, ne cite le hadith en entier. Et qu'est-ce que dit le compagnon du prophète? Il va décrire cet homme qui a dit « Ya Rasulallah, ittaqillah ». Il va dire
son apparence
physique. Alors, je reprends le texte. « Un homme aux yeux enfoncés, aux pommettes saillantes, donc qui ressortent un peu, au front proéminent, donc un front large, à la barbe épaisse et crépue, au crâne rasé ayant retroussé le bas de sa tunique ». Donc c'est un homme qui a une barbe hirsute, qui a un pantalon, enfin pas un pantalon, c'était un évahar à l'époque, qui est remonté plus court que les autres. Et cet homme qui n'a aucun adab, aucun respect pour le prophète, va avoir une descendance. Et c'est quand même incroyable quand on sait qu'aujourd'hui, ce courant se caractérise notamment par une apparence physique que tout le monde connaît en fait.
Y compris quasiment identique à ce que vient d'être dit.
Tout à fait, à peu de choses près, qui a une paire de baskets au pied. Mais c'est quand même incroyable la description. Comment ?
Les Américains. Excuse-moi, mais
c'est les restes du pacte.
C'est les restes du pacte. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point la description est précise. La barbe, le crâne rasé, et d'ailleurs le grand mufti d'Arabie Saoudite, de la Mecque, de l'époque d'Ibn Abdel Wahhab, juste après la mort d'Abdel Wahhab, le shir Dahlan, qui a écrit un livre pour lui aussi, qui a fait partie des réfutations, il cite ce hadith et il dit, ces hommes-là sont les hommes du hadith qui se rasent la tête alors que les Arabes ne se rasaient pas la tête, notamment les Arabes d'Arabie, parce qu'ils avaient les cheveux longs, contrairement aux Maghrébins qui ont généralement les cheveux moins longs, plus frisés. Mais donc, une des signes, c'est donc la barbe non soignée, le crâne rasé, la tunique remontée. C'est quand même frappant que ce hadith ne soit jamais cité.
Oui, surtout que le début est cité, c'est ça.
Le début est dans le hadith Bukhari quand même, donc c'est important. Donc en tout cas, une série de sectes qui vont naître, dont les plus violentes vont être celles de l'État islamique qui se revendiquent complètement de ces savants-là.
Inch'Allah.
Bien, ça donne envie effectivement d'en savoir beaucoup, beaucoup plus hein, sur cet ouvrage qui, comme tu l'avais précisé, reste très documenté, puisqu'il y a les références qui sont données.
Oui, donc pour ceux qui pourraient avoir plus de 10 pages de bibliographie pour un livre qui n'est pas censé être universitaire.
Et malgré donc encore une fois malgré les parfois les remarques de l'auteur qui pourraient notamment l'introduction est la plus pénible. Parce que bon, ils se sont obligés de citer certains auteurs qui sont pas forcément nécessaires, mais le cœur de l'ouvrage est absolument passionnant et l'analyse est vraiment forte, notamment l'analyse de comment la tradition est détruite, comment on coupe la religion par l'épée de la religion. Ça, c'est vraiment vraiment important.
Très bien. En tout cas, merci Daoud pour cette présentation passionnante de ce sujet qui est non seulement très important, mais aussi qui est plus que jamais d'actualité. Alors pour nos auditeurs, on vous renvoie donc à l'ouvrage qui a été la base de cette émission, Le Pacte de Najd de Hamadi Redissi, ou Comment l'islam sectaire est devenu l'islam, donc qui est paru aux éditions du Seuil
en
2007. Tout à fait, on peut se le procurer
à la librairie leslumieresdorient.com,
leslumieresdorient.com
en ligne.
Ainsi que l'autre ouvrage dont tu as cité les enseignements spirituels du prophète deux volumes de Taïeb Chouiref, édité aux éditions Taslim en 2008, également disponible sur le site leslumieresdorient.com.
Alors je précise pour que excusez-moi, je suis enseignant donc ça sort tout seul. Donc pour que les auditeurs puissent se repérer dans le site, le livre de Hamadi Redissi est dans la rubrique histoire et monde contemporain, et le livre Les enseignements spirituels se trouve dans la rubrique Hadith
et spiritualité.
Très bien.
Merci beaucoup Daoud. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de notre émission. Et on présentera un ouvrage qui, pour le coup, lui, est tout à fait autre chose que le wahhabisme.
Et qui nous montre bien ce qu'est l'islam authentique et traditionnel.
Tout à fait. Très bien. Donc on se retrouve dans quelques instants. Merci de rester avec nous. Bismillahirrahmanirrahim.